Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire, celle du mois de juin 2021. En souhaitant que vous alliez mieux, avec plus de liberté pour sortir de chez soi. Au sommaire de cette édition, j'ai des impératifs que je dois absolument vous présenter et c'est ce que je fais tout de suite. Le premier, c'est un retour sur Antoine de Saint-Exupéry et de Consuelo de Saint-Exupéry, son épouse, par toute une correspondance abondante entre l'un et l'autre, depuis 1930 jusqu'à 1944, jusqu'à la mort d'Antoine de Saint-Exupéry, qui vient de paraître chez Gallimard. Le deuxième livre, c'est de Dominique Bonnat, de l'Académie française, qui a consacré plusieurs biographies, mais jamais une comme celle-ci. Elle vient de consacrer une importante biographie sur un personnage énigmatique que l'on découvre, Divine Jacqueline. Voilà, je vous en parlerai en grand bien. La troisième présentation, c'est celle de Benoît Groult et Paul Guimard. J'y reviens, j'avais déjà remarqué d'autres choses et présenté d'autres choses de ce couple. Il publie avec la bénédiction de Blandine de Caunes, qui était la fille aînée de Benoît Groult. Il publie un journal amoureux, voilà, qui a été écrit à quatre mains, l'un et l'autre ont participé à l'élaboration de ce journal amoureux en 1951, de 1951 à 1953. Ça n'a pas été une longue expérience, mais ça a été capital pour l'un comme pour l'autre. Le quatrième livre, c'est celui d'Alice Gazzado. Après une longue enquête, elle sort du silence et de l'oubli sa grand-mère, qui s'appelait Marcel, et qui est la fille naturelle de René Char. Voilà, je vous parlerai de l'un et l'autre, parce que je vous parlerai aussi de René Char. On le redécouvre sous un jour, je trouve, nouveau dans ce roman d'Alice Gazzado. Et cinquième mention, une mention pour un personnage, une romancière historique que je découvre, Simone van der Vlucht, elle est des Pays-Bas, c'est un auteur à succès aux Pays-Bas. Et c'est tout à fait justifié, vous allez voir, elle fait vraiment des très belles écritures. Édité par Philippe Rey, aussi un très bon éditeur en France. Elle avait publié La Fabrique, que j'ai bien reçu, son nouveau roman. Je vous en parlerai, mais une autre fois, parce qu'elle revient sur la Grande Guerre dans la métropole d'Anvers, en partie, parce qu'il y a deux parties dans ce roman, La Fabrique, en Belgique. Et j'y reviendrai plus tard, le mois prochain. Parce que je préfère, c'est plus central, son roman qui est paru sur La Maîtresse du Peintre. Un roman qui met en lumière la face cachée du grand peintre Rembrandt. C'était un génie incontournable, mais il pouvait avoir une face cachée, et c'est ce que j'ai découvert avec ce roman de Simone van der Vlucht, La Maîtresse du Peintre. Voilà. Et puis, pour fêter le bicentenaire de Charles Baudelaire, je ne vais que commencer de vous parler d'une merveille qui vient de paraître chez Gallimard. Voilà. Et sans vouloir vraiment, le thème central qui me poursuit de livre en livre, c'est la difficulté d'aimer et d'être aimé, avec parfois de grandes confusions qui perturbent le destin des personnages décrits dans ces histoires édifiantes que je vous présente. Voilà le thème central, qui est très vaste et qui est très fréquent aussi. Alors je commence par le premier, qui est cette correspondance extraordinaire, parce qu'elle est abondante, de Antoine de Saint-Exupéry et de Consuelo de Saint-Exupéry, qui était son épouse depuis 1930 à 1944. Alors ces échanges, cette édition remarquable et à hauteur de l'événement, parce que c'est un événement, ces échanges de courriers postés du monde entier révèlent la face cachée de la vie d'Antoine et de sa femme, dont la présence a été complètement supprimée de certaines biographies de son mari pendant des années. Il est vrai que le couple formé par Antoine et Consuelo ne correspondait pas vraiment aux critères de l'époque, de cette époque entre les deux guerres. Bien au contraire, une vie trépidante et nomade, et le monde entier les abrite dans des maisons éphémères. Consuelo, femme moderne avant l'heure, affiche une certaine liberté, une originalité et une indépendance revendiquée. C'est pour ces raisons qu'Antoine, qui lui aussi marchait en dehors des sentiers battus, a été conquis par cette étrangère pétillante et hors du commun, dont l'accent exotique était la promesse d'un avenir d'aventure et de poésie. Lui qui est écrivain et aviateur célèbre, comme on le sait, qui a évité de peu la mort à différents moments. Elle est peintre et sculpteur. Cette dualité subtile a souvent échappé aux détracteurs du couple, qui furent nombreux tant à Paris qu'à New York, ne comprenant pas une telle existence menée dans un tourbillon permanent, chacun vivant de façon intense sa passion, sans se préoccuper du qu'en dira-t-on. Il se marie, et un mariage religieux important, car c'est pour la vie éternelle qu'il se marie, le 23 avril 1931 à Hagué. Elle est bien accueillie aussi par la mère d'Antoine, Marie de Saint-Exupéry, qu'elle appelait aussi maman, et à Saint-Maurice-de-Raymond, que vous connaissez, Saint-Maurice-de-Raymond, où ils avaient une maison de vacances, familiale de vacances. Elle a été malade, on a dû l'opérer de l'appendicite, et ça a été un peu pénible. Et c'est Marie de Saint-Exupéry qui l'a soignée, voilà, entretenue. C'est pour dire la relation qu'il existait entre la belle-fille et entre Consuelo et sa belle-mère. Alors, si on oublie l'histoire de ce contexte si particulier, si on s'en tient aux mots échangés dans cette correspondance abondante, eh bien, on découvre que c'est la plus émouvante, la plus sincère, la plus tragique histoire d'amour depuis Tristan et Isolde, qui nous est contée dans cette lecture édifiante. Lui, voilà ce qu'il dit à un moment donné. Consuelo, merci du fond du cœur d'être ma femme. Si je suis blessé, j'aurai qui me soignera. Si je suis tué, j'aurai qui attendra dans l'éternité, qui attendre dans l'éternité. Consuelo, toutes nos disputes, tous nos litiges sont morts. Je ne suis plus qu'un grand cantique de reconnaissance. Et elle renchérit en disant, mon chéri, je voudrais être un petit ruisseau dans vos sables pour vous baigner. Il n'y a que vous qui comptez pour moi. J'aime vous savoir entier, fier, fleuri, mon petit mari. Mon horloge de sable, vous êtes ma vie. Oui, toute cette correspondance montre bien, d'une façon exemplaire, que il n'est pas facile d'aimer. L'amour est exigeant. Il ne se donne pas une fois pour toutes et tout entier. Il y a tant d'obstacles à dépasser, tant d'obscurité sur son chemin. Ô Consuelo, je reviendrai bientôt dessiner partout des petits princes, lui dit-il en novembre 1943. Et justement, le petit prince serait né en 1930, justement, au moment du. Peu à peu après, au moment de la rencontre entre Antoine et Consuelo, le petit prince serait né en 1930 et non en 1943, comme le veut la chronologie usuelle. C'est elle, Consuelo, qui incarne la rose si fragile. Oui, cette édition remarquable est établi, annoté, présenté en grand format par Alain Cerisier. C'est vraiment un régal. Alors je voulais dire que la grande rivale de Consuelo, c'est Nelly de Vogüé, maîtresse de Antoine, qui prétendait prendre toute la place dans la vie d'Antoine et qui signa la première biographie de Saint-Exupéry dès 1949 sous le nom de Pierre Chevrier et qui a complètement effacé la présence de Consuelo. Il faut dire que Antoine l'avait quitté. Bon, elle avait rendu un bien grand service à un moment donné, mais après, il l'avait quitté pour aller justement, pour se rapprocher de Consuelo et d'aller avec elle à New York. Et même si Nelly tente à plusieurs reprises de poursuivre Antoine de ses assiduités, il avait bien pris sa décision. Et Nelly ne l'a pas bien accepté. Et cela est confirmé dans une autre biographie très importante de Paul Webster, que j'apprécie depuis longtemps, dans un livre sur toute la vie de Consuelo de Saint-Exupéry, « La rose du petit prince », paru aux éditions du Félin. Je ne sais pas si ça se trouve encore, peut-être en bibliothèque à ce moment-là. Mais c'est un très très beau témoignage, car on découvre, et la jeunesse de Consuelo, c'est de mariage avant d'arriver, de rencontrer Antoine, et puis après ce qu'elle a fait après, et puis... Cette jeune latino-américaine à la réputation scandaleuse qui faisait tourner le cœur, car c'était une séductrice née d'ailleurs. Quand on regarde les photos d'elle, on est aussi attiré par elle. Une séductrice née, le cœur des hommes, ne quitta jamais, pourtant, ne quitta pourtant jamais celui, le cœur de Saint-Exupéry, pour le pire et pour le meilleur, car elle fut bien l'inspiratrice du Petit Prince, une fable au succès mondial, la rose de l'enfant aux cheveux blonds, eh bien c'est Consuelo. Le jeune aristocrate au beau nom et la jeune salvadorienne rencontrée à Buenos Aires rejoignent grâce à ce roman la légende des couples mythiques que la vie déchira, que le secret d'un livre et cette correspondance enfin publiée réunissent à jamais. Alors j'ai dit que je voulais vous lire quand même un ou deux passages de cette correspondance de Consuelo et puis après d'Antoine. Mon mari, mon Tonio, mon chéri, vous me manquez, sans vous je suis toute petite, toute seule dans les 5 étages de notre maison déserte. Le chien seul galope dans les escaliers avec son os en suppliant de jouer avec lui. Ta table dans la bibliothèque raconte beaucoup sur ton départ. Ton désordre est encore là. Je n'ai rien touché. Je suis encore faible pour faire de l'ordre, pour ranger. Dieu sait pour combien de temps. Tes livres, tes traces, j'ai le cœur serré, tu sais. Je commence à quitter mon lit pour quelques heures. Seulement, couché, je me sens protégé. Je pense que tu vas revenir, que tu vas rentrer dans la chambre d'un moment à l'autre. Alors je prends ma pilule et je m'endors. Mais les forces reviennent avec le printemps. Hier, au chaud, un ami, un très bel ami, un très bon ami, pour l'un comme pour l'autre, hier, Rouchot m'a fait dîner au restaurant et m'a parlé avec tant d'admiration, tant de tendresse pour toi. Il t'aime comme un homme. Il attend de toi tant de bien, tant de belles choses de ton prochain livre. Je lui ai dit comment je t'aime pour la vie, pour toute la vie, et comment cela me peine. Tant d'agitation, tant de séparation. Et il m'a dit, quand vous aurez fini, quand vous serez morte, le bon Dieu vous dira, mon enfant, vous avez eu envie, le ciel et l'enfer. Vous avez vécu avec Tonio, qu'est-ce que je peux vous donner, mon enfant? Et vous lui répondrez doucement, Tonio. Voilà pour elle, pour Consuelo. Et puis, voici un extrait de la dernière lettre d'Antoine de Saint-Exupéry, qui était reparti à la guerre, à nouveau en guerre, qui était en Sardaigne fin juin 1944. C'est une vieille lettre de 3 semaines. Ma petite Consuelo, mon amour, il s'est passé quelque chose de très nouveau que tu n'as pas compris sur mon câble, parce que se sont envoyés des télégrammes aussi, lorsque je te disais « je fais la guerre très loin ». Je pilote de nouveau des LinkedIn et je fais des missions photographiques très loin en France. On a bien voulu enfin oublier mon âge et je suis le seul pilote du monde qui fasse la guerre à 43 ans, bientôt 44. Et sur cet avion qui fait plus de 800 km à l'heure, maintenant qu'il est très perfectionné, la limite d'âge est de 30 ans. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seront bien contents si je suis tué. Mais vois-tu, ma Consuelo, j'aurais montré que l'on peut aimer son pays et faire le métier de guerre le plus dur sans être partisan de la guerre civile entre Français, sans accuser de trahison tous ceux qui essaient difficilement de sauver quelque chose de la substance du pays et n'ont de goût ni pour les brailleries politiques ni pour la haine. Ma Consuelo, si je suis tué, je n'en serai triste qu'à cause de vous. Comme en Libye. Moi, ça m'est bien égal. J'ai bien le droit de me reposer, car tout ça n'est plus de mon âge. Comme je ne puis supporter le repos dans cette horrible poubelle d'Alger, comme je n'ai pas encore l'autorisation d'aller vous embrasser à New York, comme je ne puis pas me satisfaire la conscience en prononçant de grandes phrases dans les journaux, et que si je ne fais pas le plus dur, j'ai l'impression de ne rien faire du tout. Alors le repos, je le trouverai ou dans vos bras, et sous nos arbres, et dans la paix de votre poésie, lorsque je reviendrai de 11 000 mètres, ou bien dans un sommeil définitif, mais tout lavé de la saleté de leurs injures. Voilà, je m'arrête là. À vous de lire ce livre, cette correspondance tout à fait remarquable. Et je passe au livre de Dominique Bonnat. Divine Jacqueline de Dominique Bonnat. Un ouvrage paru aussi chez Gallimard, de 522 pages, je le signale, parce que c'est une grosse biographie. C'est vrai que Dominique Bonnat a consacré pas mal de temps à cette biographie. Jacqueline, au début de cette biographie, elle parle de Jacqueline de Ribes. La divine Jacqueline se nomme Jacqueline de Ribes. C'est elle, la divine Jacqueline. Elle fait son apparition, comme elle a l'art de le faire, qui est même un des moments forts de cette performance en plein ciel. Ce soir, Jacqueline de Ribes, une très très belle femme, est traitée à l'égal des plus grandes sur l'Empire State Building à New York. Elle vit une consécration. Les Américains qui aiment admirer ont beau s'interroger, ils ont tout de suite reconnu en elle une idole. Et moi, Dominique Bonnat, perdu dans la foule, moi qui savais que cette pharaone était la dernière reine de Paris, la survivante d'un monde à jamais disparu, celui de Marcel Proust et Le Temps retrouvé, dont elle incarnait une des héroïnes, celui de la haute couture parisienne, qui a fait des siennes, et puis les bals, comme celui de Venise, qui a marqué les mémoires. Quelle femme était-elle, avec ses contradictions et son mystère? Cacher ce mirage éphémère, cette hallucination d'un soir. En fait, c'est une femme qui reçoit au monde toutes les chances. Elle a la beauté, elle a vraiment très, très belle, et l'élégance naturelle, le nom, un nom aristocrate, la fortune. C'est une privilégiée de la vie, elle le sait, mais elle n'a pas voulu en rester là. Elle s'est dit, c'est magnifique, mais ce n'est pas assez. Je veux créer quelque chose de personnel avec tous ces nombreux dons. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va créer, elle aussi, elle aura toute une maison de couture des plus belles. Et c'est cette exposition, je vais vous en parler, figure, donc c'est une figure de la haute société des années 60, l'un des signes préférés de l'écrivain Truman Capote, l'écrivain américain, et du grand photographe Richard Avedon, qui va réussir des prouesses avec elle. C'est une amie très longue, très lente, d'Yves Saint-Laurent, qui lui écrira des nombreuses lettres, des soutiens pour sa maison de couture jusqu'à la fin de sa vie, et de Luchino Visconti. Elle est devenue une icône du style et un symbole de l'élégance française. Une reconnaissance mondiale, illustrée donc en 2015 par une magistrale exposition au Metropolitan Museum de New York, au Metropolitan Museum, pour toute sa couture, toute sa mode, voilà, qui sera présentée dans une exposition formidable. Et son visage a été projeté en pleine lumière sur l'Empire State Building, chose qui n'est pas fréquente aux États-Unis. Alors donc, tout ce livre trace un destin unique et magnifique, déchiffré avec passion par Dominique Bonnat, qui pour la première fois, elle est confrontée avec un personnage vivant, car cette Jacqueline, cette divine Jacqueline, Jacqueline de Ribes, vit encore. Elle a un peu plus de 80 ans. Elle est handicapée parce qu'elle a eu des maladies quand même, ce qui n'a pas empêché quand même de paraître toujours avec somptuosité. Donc, elle a eu toute liberté pour écrire cette splendide biographie dans laquelle elle raconte toute cette vie divine et multiple, et longue vie divine et multiple. Le grand amour, me dit-elle, c'est mon mari, Édouard de Ribes, voilà, qui est la pièce centrale qui lui permet de conserver cet équilibre. Et puis elle a eu Raimondo de Larrain, quant à lui, est la première de ses trois passions avouées, parce que c'est vrai qu'elle a eu des passions avouées qui lui permettaient de toucher du doigt des sujets d'exception, voilà. Et avec Raimondo de Larrain, c'est le monde de la danse qu'elle va pénétrer, avec la rencontre de Rudolf Nureyev. Mais en 1962, les deux se séparent, Raimondo de Larrain et Rudolf Nureyev, ce qui fait que lui, il partira au Royal Ballet de Londres, où il a dansé Gisèle avec Margot Fontaine. Et moi, c'était en 1960, mais je me souviens quand même d'avoir vu des images de ce Gisèle. Donc, tout ça pour dire que cet ouvrage Divine Jacqueline de Dominique Bonnat, qui est paru chez Gallimard, est un ouvrage à conserver, car il fait aussi mémoire de toute cette riche époque vécue par nous, les lecteurs peut-être, d'un peu trop loin. Voilà pourquoi je voulais absolument vous parler de cette divine Jacqueline, de cette biographie immense de Dominique Bonnat. Et puis donc, je vous parle aussi d'un livre plus modeste quand même. C'est vrai que vous savez combien j'aime la prose de Benoît de Groult et de Paul Guimard. Je vous avais déjà parlé de leur journal d'Irlande, Carnet de pêche et d'amour, qui était paru chez Grasset. Et là, je parle du journal amoureux, préfacé, présenté, établi par Blandine de Caunes, qui est la fille aînée de Benoît de Groult. Celui-là, Journal amoureux, vient de paraître aux éditions Stock. J'ai toujours su, dit-elle, que ce livre existait, même si je ne l'avais jamais lu ni même vu. Maman, Benoît de Groult, m'en avait parlé, et c'est Paul qui est à l'origine de ce projet, de cet exercice d'écriture, chacun prenant la parole à tour de rôle pour raconter leur quotidien. Il a eu cette idée épatante pour l'aider à prendre confiance en elle, car au début, c'était pas du tout ça. Et son talent, auquel elle ne croyait guère à l'époque. C'était d'autant plus généreux de sa part, Paul Guimard, qu'il n'a jamais tenu un journal de sa vie et que c'était même contraire à sa nature. Maman lui rendait souvent hommage pour cette initiative, et d'ailleurs je lirai un court poème, vous verrez un poème qui bien montre bien que, avec un peu la fantaisie avec laquelle il tenait ce journal, écrit à quatre mains. À travers ce jeune couple amoureux qui manie la plume avec dextérité, le talent des deux écrivains reconnus qu'ils deviendront, est déjà là. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait que ce livre est très plaisant à lire. Il constitue aussi un formidable témoignage des années 1950 et du féminisme naissant d'une femme engagée, Benoît de Groult, qui participera à tous les combats de son époque. Alors oui, voilà, je voulais vous lire un poème de Paul, paru donc dans ce journal amoureux et qui a quatre mains, par Paul Guichard et Benoît Groult. Aux quatre vents, si je t'emporte un jour assez loin, mon ami, du côté de Marie-Galante, si nous embarquons toute affaire cessante du côté de notre absurdie, si tu veux ma sereine et raisonnable amante croire un jour à mes songeries, nous partirons au Capricorne, un nuage en perruque grise coiffe aujourd'hui mon horizon. Un peu plus bas que moi se brise une valse à l'accordéon, inventée par un mendiant triste. Le ciel a l'air d'une prison, tous les moineaux sont pessimistes. À l'ouest, rien de nouveau, à l'est, rien de possible. Au nord, au sud, au zénith, au verso, rien de possible, rien de nouveau. Tout cela est risible, à pleurer, sous les ciels blancs des Amériques, aux rendez-vous aventureux de nos deux espoirs chimériques, aux rivages des corps heureux bercés par la mer des tropiques, nous posterons le poids nombreux de nos pauvres vies utopiques. Rien n'est perdu, fort l'amour. La ville a l'air d'une lanterne scintillante et prête pour un nouveau festin d'Holoferne. Nous serons comblés si tu l'oses. L'espérance est un poison lent. Et je crois aux métempsychoses des espoirs et des sentiments. Nous serons comblés si tu l'oses, et je t'adore en attendant, et je t'adore et je crie aux quatre vents. Voilà, je m'arrête là, cette lecture du journal, un fragment de lecture du journal amoureux de Benoît Krolt et Paul Guimard, qui vient de paraître chez Stock, année 1951 à 1953. Et l'on fait une pause musicale et l'on écoute Hélène Grimaud qui nous donne l'Allegro du concerto pour piano de Jean-Sébastien Bach. Voilà, une bien belle musique qui est au diapason avec toutes ces belles œuvres que je vous ai montrées, présentées. Voilà. Alors, le quatrième livre s'appelle « Sois la bienvenue ». C'est de Alice Casado, et ça vient de paraître aussi chez Stock. Je l'attendais depuis quelque temps, il est enfin arrivé. Cette histoire, c'est la mienne, moi, Alice Casado, celle de ma grand-mère Marcel surtout, mais aussi celle de Marie-Louise Bègue, dite Malou, mon arrière-grand-mère, qui a été abandonnée et a été confiée à l'assistance publique. Ceci fin 19e, début 20e siècle, et véritablement, les pauvres gens qui ont été à l'assistance publique sont des domestiques mal aimés du tout. C'est une véritable sinécure, c'est traumatisant même. Et à 17 ans, elle va être promise à une femme de caractère, la famille Char, voilà. Et ce fait que à 17 ans, cette Malou va aussi aller dans leur résidence d'été à Antibes avec toute la famille, voilà. Et c'est là qu'elle va rencontrer René Char qui jouait à Paris des points avec les surréalistes. Il avait écrit un roman qui avait bouleversé vraiment les surréalistes, qu'il avait accueilli à Paris à grand accord et à cri. Et donc, il était monté à Paris et il avait participé à un petit moment avec eux, jouant de. Il est très un bel homme, un très beau jeune homme, grand. Donc, il a joué de son succès parisien auprès des filles, voilà, de Paris. Bon. Et puis, bah, il vient passer les vacances à Antibes avec sa famille l'été. Et c'est là, sur la plage, qu'il va rencontrer aussi Malou, qu'il va découvrir cette jeune fille, Malou, en mal d'amour. C'est un coup de foudre, voilà. Enfin, surtout elle pour lui, parce que, voilà. Et ces trois histoires entremêlées, ce roman, nous raconte trois histoires entremêlées et reliées à René Char, que l'on redécouvre, moi je l'ai redécouvert vraiment avec beaucoup d'intérêt, car beaucoup plus authentique d'ailleurs. D'ailleurs, il va changer, il va y avoir la guerre qui va arriver, la Seconde Guerre mondiale, et il va s'engager, donc il prend à la fois des racines dans cette Provence qu'il redécouvre vraiment avec des personnages qu'il côtoie et qui sont des authentiques de la Provence. Et puis sa poésie est au diapason de cette découverte, et il devient un homme du maquis, un héros maquisard sous le nom de Capitaine Alexandre. Donc on découvre tout ça dans ce livre, chose que je ne savais pas. Donc est né d'un amour aussi bref et puissant que l'aphorisme d'un poète ou le ressac d'une vague. De cette aventure cachée entre le poète et la jeune domestique Malou, rejetée par la famille Char, va naître Marcel. Alors au début, Malou, heureusement, elle est chassée de la famille, mais elle arrive à épouser un jeune électricien qui va adopter l'enfant, Marcel, et qui va stabiliser le couple de Malou, la nature de Malou, hein, qui ne sera plus comme les enfants abandonnés. Et Marcel va découvrir comme ça, et puis le sachant devenu adulte, Marcel va partir à la recherche de son père, à la rencontre de son père, à Isle-sur-la-Sorgue, vous savez, c'est là où vivait René Char, l'Isle-sur-la-Sorgue, et une timide relation née au début, faite de lettres et de visites. Mais les visites auront bien lieu, et c'est lui qui lui aurait dit sois la bienvenue en recevant donc Marcel, sa fille. Alors bien sûr, ça n'a jamais été cette relation déclarée, mais par amour pour sa grand-mère, Alice Casado, pour que soit écrite la vérité, elle a mené une enquête En réunissant archives, témoignages, correspondances, elle éclaire des vies brisées et transcendées par la poésie à la lumière sèche de cette Provence familiale que l'on aime aussi à travers cette lecture. Le jeune René Char, comme je l'ai dit, deviendra un chef héroïque des maquis de Provence, assurant les parachutages de personnel, de matériel, sous le nom de capitaine Alexandre. Et donc, elle parle, Alice Casado, d'un recueil de poésie et de René Char, qu'elle aimait beaucoup, et j'ai vu qu'il faisait partie de Fureur et Mystère de René Char, qui est paru en collection Poésie Gallimard avec une préface d'Yves Berger. Et je vous lis deux courts poèmes quand même pour vous mettre l'eau à la bouche. Celui-ci, parce que on a vu du mimosa il n'y a pas très très longtemps, même sur les marchés de Bourg. Congé au vent. À flanc de coteau du village, bivouac des champs fournis de mimosa. À l'époque de la cueillette, il arrive que, loin de leur endroit, on fasse la rencontre extrêmement odorante d'une fille dont les bras se sont occupés durant la journée aux fragiles branches. Pareil à une lampe dont l'auréole de clarté serait de parfum, elle s'en va, le dos tourné au soleil couchant. Il serait sacrilège de lui adresser la parole. L'espadrille foulant l'herbe, cédez-lui le pas du chemin. Peut-être aurez-vous la chance de distinguer sur ses lèvres la chimère de l'humidité de la nuit. Voilà. Une question que se pose le poète. Un autre cours écrit plus tard, où il imagine un étang glacé avec ce qu'il distingue dessus, la poutre, comme une nappe. Sur la nappe d'un étang glacé, c'est un court poème. Je t'aime, hiver aux graines belliqueuses. Maintenant ton image lui, là où son cœur, peut-être le cœur de la belle, s'est penché. Voilà, je m'arrête là-dessus parce qu'il faut bien que je passe à d'autres livres. Mais c'est vrai que ce soit la bienvenue d'Alice Casado, la fille de René Char, raconte, eh bien, j'ai passé vraiment un très bon moment avec elle, avec eux et avec René Char. Alors, vous êtes bien sûr, sur Radio B90 FM avec Patrice Perrin. Je découvre Simone van der Vlucht, auteur à succès aux Pays-Bas, édité par Philippe Rey en France. Elle vient de publier La Fabrique, son nouveau roman, qui parle entre autres de la Grande Guerre dans la métropole d'Anvers, en Belgique, mais je le garde pour le mois prochain. Je préfère vous parler de La Maîtresse du Peintre, un roman qui met en lumière la face cachée de Rembrandt. Je tiens effectivement Rembrandt pour un très très grand peintre, un peintre incontournable. Un jour de juillet dans ce roman La maîtresse du peintre, un jour de juillet 1650, Gertsch Dirks est arrêtée et conduite à la maison de correction pour femmes de Gouda, au nord des Pays-Bas. Condamnée à y passer 12 ans, vous vous rendez compte, 12 ans, à l'origine de cette très, très lourde peine, un procès avec le peintre Rembrandt van Rijn. Jugé par contumace sur un faux témoignage que l'on découvre à la lecture du roman, la prisonnière de sa cellule revient sur les années qui ont précédé son arrestation et sur son idylle, on peut parler d'une idylle, avec le célèbre peintre Rembrandt. De milieu modeste, mais c'est ça qui est très très bien montré, Gertsch entre à juste 30 ans au service de Rembrandt. Elle est comme la gouvernante. En tant que nourrice attachante, elle est vraiment très attachante comme personnage, de son fils Titus. D'ailleurs, Titus l'aimera beaucoup, sa nourrice. On assiste à la mort de Saskia, sa femme aimée, et ce qui va faire de Gertsch la maîtresse de maison, et la cohabitation laisse vite place à l'amour. Un jour même, elle a l'idée, elle voit les habits de Saskia dans une armoire, elle voit une belle robe, elle a envie de la mettre, et elle voit que cette robe lui va très très bien, elle est à sa taille, et Rembrandt, qui la voit dedans, va faire encore plus une confusion entre cette jeune Gertsch et Saskia, sa femme aimée. Les deux amants vivent une liaison scandaleuse, parce que c'est hors mariage. Et à cette époque, c'est vraiment scandaleux, car tout est très bien conventionnel, hein. Il faut passer. Mais il ne peut pas se marier avec elle, parce que elle a, Saskia, elle a passé des bijoux, elle a passé des choses, et elle a interdit un petit peu à Rembrandt de se marier après elle. Alors, jusqu'à la trahison de Rembrandt, qui deviendra amoureux d'une plus jeune qui lui servira aussi de modèle, Hendrick, que l'on découvre dans les albums sur Rembrandt, dont il rejette Gertsch comme une malpropre, lui réclamant les bijoux de Saskia qu'il lui avait offerts, alors qu'il était vraiment très amoureux de Gertsch. S'appuyant sur des documents historiques et des sources sérieuses, la maîtresse du peintre redonne voix à Gertsch Dirks, injustement désavoué par l'histoire. Rembrandt est un génie certain, mais elle devient aussi dans ce récit un personnage complexe, capable de manipulation, un roman puissant qui met vraiment en lumière une femme qui a su grandir dans cette société cloisonnée du XVIIe siècle et qui fut réduite au silence. C'est une histoire tragique, brillamment racontée par une grande romancière, Simone van der Vlucht, que je vous recommande, éditée par Philippe Ray. Il me reste encore, pour finir, une somme. Je ne pourrais pas tout vous dire, d'ailleurs, cette somme. Pour fêter le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire, né en 1821 et mort en 1867, Gallimard vient de publier en quarto une édition remarquable et remarquée signée Henri Seppi. Elle met cette édition en lumière la passion des images revendiquée par Baudelaire lui-même. La couleur pense, glorifier le culte des images, telle est ma grande, mon unique, ma primitive passion, dit-il dans son récit « Mon cœur mis à nu ». En instaurant un dialogue entre texte et image, image tout à fait, cette édition en couleur, les images sont splendides, une qualité photographique extraordinaire, cette édition en couleur, un dialogue entre texte et image, cette édition en couleur de 1824 pages, voilà, c'est une somme, 1824 pages, et de 310 documents, donne à lire les œuvres essentielles de Baudelaire à travers les différents répertoires d'images. C'est ça qui est unique, qui ont nourri son imaginaire. Depuis poèmes écrits de jeunesse, ses critiques littéraires et ses nouvelles, Les Fleurs du Mal, bien sûr, Le Spleen de Paris, écrits intimes, écrits sur la Belgique. C'est pour ça que je vous ai dit à propos de l'auteur des Pays-Bas. Je vous en parlerai le mois prochain à nouveau en parcourant avec vous les écrits sur la Belgique de Charles Baudelaire. Doué d'une vaste culture artistique, aguerri aux séductions et aux prestiges de la peinture romantique, dont il est l'un des plus brillants commentateurs, amoureux des estampes et des caricatures, Baudelaire est assurément perçu aujourd'hui comme le poète des images au XIXe siècle. Le poète des Fleurs du Mal sait que la poésie ouvre aux dimensions d'un univers imaginaire plus réel et plus vivant que la réalité même. Critique d'art, auteur de salons célèbres, il est aussi l'écrivain qui se penche sur la variété des images, adoptant tour à tour le point de vue du philosophe, de l'historien, du moraliste. Il est le peintre, Charles Baudelaire, il est le peintre de la vie moderne. Alors, je voulais vous lire quand même quelques poèmes. J'avais noté le tout premier poème qu'il avait écrit, mais aussi, dans Les Fleurs du Mal, il commence par « Au lecteur ». La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps. Et nous alimentons nos aimables remords, comme les mendiants nourrissent leurs vermines. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan Trismégiste, qui berce longuement notre esprit enchanté. Et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. J'arrête là, vous pourrez continuer en vous procurant les fleurs du mal pour retrouver ce sorte de poème au lecteur. J'avais noté dans son premier poème, pour vous montrer un petit peu la qualité ici, comment tout est bien dit, comme il dit beaucoup de choses en peu de mots. Dans son premier poème, paru en 1838, tout là-haut, loin de la route sûre, des fermes, des vallons, par-delà les coteaux, par-delà les forêts, les tapis de verdure, loin des derniers gazons foulés par les troupeaux, on rencontre un lac sombre encaissé dans l'abîme, que forment quelques pics désolés et neigeux. L'eau, nuit et jour, y dort dans un repos sublime et n'interrompt jamais son silence orageux. Dans ce morne désert, à l'oreille incertaine, arrivent par moments des bruits faibles et longs, et des échos plus morts que la cloche lointaine d'une vache qui paît au penchant des vallons. Je m'arrête là, un sourire. À vous de lire la suite aussi de ce premier poème qu'il avait écrit. J'enchaîne aussi brièvement sur les bijoux, qui fait partie des fleurs du mal, mais qui avait été censuré, car il y avait un mot qu'il avait dit, qui était mal compris par la censure, ce qui fait que ça avait été censuré. Les bijoux. C'est plus érotique, bien sûr, les bijoux. Hein? Déjà, les bijoux. La très chère était nue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur. Qu'ont dans les jours heureux les esclaves des morts. Oui, l'époque romantique, comme Victor Hugo aime bien parler des morts. Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase, et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer, et du haut du divan, elle souriait d'aise à mon amour profond et doux comme la mer qui vers elle montait comme vers sa falaise. Voilà, je m'arrêtais là. Cette somme, Charles Baudelaire, œuvre choisie, La passion des images, en collection Quarto chez Gallimard. de 1824 pages, 310 documents réunis, présentés, annotés, en notés vraiment, par Henri Seppi, un travail colossal. Il y a aussi des lettres, comme cette lettre à M. Jules Janin, à propos du feuilleton signé Eraste sur Henri Heine et la jeunesse des poètes. Lui aussi, lui-même, il savait comment on chante et comment on pleure. Il connaissait le sourire mouillé de larmes. Comme c'est extraordinaire, n'est-ce pas, qu'un homme soit un homme ? Catilina écrit au sénateur Quintus Cecilius avant de prendre les armes. « Je te lègue, ma chère femme, Orestia, et ma chère fille. » Mérimée lui-même, ajoute « On éprouve quelque plaisir et quelque étonnement à voir des sentiments humains dans un pareil monstre. » Comme c'est extraordinaire qu'un homme soit un homme. Quant à toutes les citations de petite polissonnerie française, comparées à la poésie d'Henri Heine, de Byron ou de Shakespeare, cela fait l'effet d'une serinette ou d'une épinette comparée à un puissant orchestre. Il n'est pas un seul des fragments d'Henri Heine que vous citez qui ne soit infiniment supérieur à toutes les bergerades ou berquinades que vous admirez. Ainsi l'auteur de la mort, de l'âne mort et la femme guillotinée, l'âne mort et la femme guillotinée, ne veut plus entendre l'ironie. Il ne veut pas qu'on parle de la mort et de la douleur et de la brièveté des sentiments humains. Écartez de moi les images funèbres, loin de moi tous ces ricanements. Laissez-moi traduire Horace et le savourer à ma guise. Horace, un vrai amateur des flonflons, un brave littératisant, dont la lecture ne fait pas mal aux nerfs, comme font toutes les discordances lire moderne. Les discordantes lire moderne. Pour finir, je serais curieux de savoir si vous êtes bien sûr que Béranger soit un poète. Je croyais qu'on n'osait plus parler de cet homme. Voilà, je peux m'arrêter là-dessus. Si vous êtes bien sûr que les belles funérailles soient une preuve du génie ou de l'honnêteté du défunt, c'est-à-dire qu'il n'y a guère que des coquins et des sots qui obtiennent de belles funérailles. Si vous êtes bien sûr que Delphine Gay soit un poète, si vous croyez que le langoureux de Musset soit un bon poète, je serais aussi curieux de savoir ce que fait le nom du grotesque Viennet à côté du nom de Banville et à côté d'Auguste Barbier et Gésippe Moreau, un ignoble plomb enflammé de sa luxure et de pétrophobie belge. Ceci pour vous montrer avec quelle ironie Charles Baudelaire distille ses critiques. Enfin, pourquoi vous orthographiez le comte de Lille, le nom de monsieur le comte de Lille, le confondant ainsi avec le méprisable auteur des Jardins. Voilà. Je voulais vous dire, vous trouverez tout ça et bien plus encore dans cette somme Charles Baudelaire, La passion des images, œuvre choisie, mais de tout ce qu'il a vraiment écrit en quarto Gallimard. Je ne sais pas le prix, je ne sais plus le prix, mais ça vaut son pesant d'or, voilà. À bientôt, je vous dis à bientôt et au mois prochain, dont je vous donnerai la suite de ses écrits sur la Belgique.